Donne-moi un revolver, dit-elle. Quoi ? Tu es le chef de la casa, dit Solana en lui jetant un regard froid. Donne-moi une arme. Les réserves animalières étaient devenues des lieux stratégiques pour les guérillas d'Afrique australe dans les années 1970 et 1980. Vastes, faiblement peuplées, composées de terrains souvent difficilement praticables et proches des pays voisins, ces zones s'avéraient idéales tant pour l'infiltration des guerrieros basés dans les pays limitrophes que pour le trafic d'ivoire qui finançait l'achat d'armes. Plus de 100 000 éléphants furent ainsi tués, dont une majorité durant la guerre en Angola. Le transport des défenses s'effectuait par camion exempté des procédures douanières. Allié de l'Afrique du Sud, l'UNITA de Savimbi n'était pas seul à profiter du trafic. Des officiers du renseignement militaire sud-africain, des membres de l'establishment jusqu'au président de l'apartheid, chassaient l'éléphant en Angola pour le plaisir de rapporter quelques défenses à la maison. Les ennemis sur le terrain faisaient des affaires entre deux batailles, alimentant une corruption généralisée qui finançait la guerre et remplissait leurs poches. Même le chef de l'expédition cubaine en Angola, le général Ochoa Sanchez, accueilli en héros à son retour au pays, avait fini par être convaincu de corruption et exécuté par Fidel Castro. Les États occidentaux connaissaient le trafic. Le WWF fermait les yeux. Commandant du 32e bataillon, Rainer Duplessis participait à la curée. Les éléphants électrocutés ou déchiquetés par les mines en se retirant du champ de bataille étaient une prise exceptionnelle. 315 bêtes, à raison de deux défenses, allant de 15 à 25 kilos l'unité, à $150 le kilo d'ivoire. Cela représentait environ $6 000 US par éléphant, soit un butin total avoisinant les 2 millions. Une fortune. Duplessis avait fait charger les 600 défenses d'éléphants dans un camion de transport de troupes, plus de 2 tonnes d'ivoire bâchées à la hâte. Le convoi secret filerait vers l'Afrique du Sud plutôt que vers la Namibie, où les troupes avaient ordre de se retirer pendant que le 32e retiendrait l'ennemi angolais. Duplessis et ses supérieurs du renseignement militaire avaient leur réseau au pays. Le chargement était attendu le soir même, à la frontière. Le lieutenant Kurtz, un de ses hommes de confiance, accompagnerait son meilleur chauffeur dans l'unité, le caporal Malan, qui avait montré assez de courage au feu pour riposter efficacement en cas d'escarmouche avec un groupe ennemi et qui surtout savait éviter les pièges des pistes africaines. Yann avait à peine eu le temps de nettoyer le sang des éléphants coagulés sur sa peau. Il avait quitté Nkon et ses camarades en 4e vitesse, son paquetage sur le siège près de Kurtz et son M16 américain. 200 kilomètres de brousse les séparaient du poste frontière sud-africain où ils étaient attendus. Lancé sur des pistes impossibles, Yann conduisait de main de maître. Il combattait depuis des mois sous les ordres directs du lieutenant Kurtz, un officier dur et dépourvu de peur, comme leur commandant, qu'il valait mieux avoir dans son camp. Yann se taisait depuis la boucherie qui avait suivi la mise à mort des éléphants, les petits baignant dans le sang de leur mère, les matriarches aux pattes déchiquetées. Yann avait vu des horreurs, des corps empalés, décomposés dans la boue ou laissés au fleuve. Mais la guerre, c'était autre chose. Un ennemi qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, presque dématérialisé tant on pense surtout à se sauver, à tirer pour se défendre. Yann Malan avait mangé le pain noir de la peur, les intestins noués. Il avait obéi pour défendre ce que les Afrikaners estimaient être leur terre, défendre sa famille et leur ferme en Namibie. Yann avait tendu des embuscades avec Nkon, tué quand il n'avait pas le choix, n'éprouvant ni horreur ni dégoût, cloisonnant son cerveau pour y survivre. Mais ces animaux amputés, leur cri d'agonie l'avait frappé plus profondément qu'une balle. Une blessure invisible, jamais refermée. La nuit commençait à tomber et Yann n'en finissait plus de se consumer. D'autant qu'au fil de la route, un doute s'immisçait. Que Duplessis ait choisi Kurtz pour mener le chargement illicite ne le surprenait pas, mais pourquoi l'avoir choisi lui comme escorte? Il y avait des chauffeurs plus dévoués dans le 32e, des durs à cuire qui auraient suivi Duplessis en enfer. Yann n'était qu'un éclaireur, un caporal qui traînait avec les autochtones de l'unité d'élite Oméga. Et puis Yann saurait où et à qui l'ivoire serait remis. Il ferait partie des complices, ou des hommes qui en savaient trop. Et Duplessis n'avait pas parlé de prime ni d'une quelconque récompense pour mener l'ivoire à bon port. Il lui avait donné